P comme pétrole ou la fin du pétrole. Le carburant de la croissance, c'est bien le pétrole. Nous sommes dans un système d'ultra-dépendance à quelques sources d'énergie fossiles, et le pétrole est la pierre angulaire de tout notre système de production. Il est omniprésent dans les produits usuels et dans l'industrie, et le peu d'alternatives existantes font qu'il a un impact social et économique majeur. Or, nous allons bientôt connaître la fin du pétrole, ce qui va entraîner des modifications importantes de notre mode de vie et du fonctionnement de la société occidentale. Il faut bien différencier l'épuisement physique du pétrole, qui interviendra dans une quarantaine d'années au rythme de la consommation actuelle, du moment plus proche où la tension entre l'offre et la demande va provoquer d'importants bouleversements économiques. Michel Vautelet, professeur de physique à l'Université de Mons en Belgique, rappelle que les pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, la Russie et le Mexique par exemple, consomment à présent autant de pétrole que l'Europe, et leur consommation s'envole, stimulée par une économie en pleine croissance grâce au pétrodollar. La hausse de leur consommation se fait au détriment de leurs exportations. Parallèlement, le nombre de pays importateurs augmente. Il apparaît donc de plus en plus clairement que les grands consommateurs de pétrole, dont l'Europe, verront bientôt leur approvisionnement diminuer. En résumé, il devient clair que la fin du pétrole abondant et bon marché approche et que d'ici 2050, la quantité de pétrole économiquement disponible va décroître de manière très importante. Au niveau mondial, environ 50% du pétrole est utilisé dans les transports. Et les transports reposent à 98% sur le pétrole. C'est dire l'importance actuelle du lien pétrole-transport. Alors, concrètement, entre tensions géopolitiques et rarification de la ressource, l'explosion des prix du brut, ça signifie la fin de la globalisation. Plus personne n'ira faire fabriquer des t-shirts à 10 centimes la douzaine à l'autre bout du monde si le prix du pétrole atteint des sommets. Évidemment, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais cela nécessitera une relocalisation des productions et un remaniement de l'économie qui ne se fera pas sans mal. Cela signifie aussi que de nombreux produits redeviendront, comme autrefois, des produits de luxe, comme les bananes ou le cacao pour les Européens. Et que les bateaux poubelles n'auront plus assez de jus pour sillonner toutes les mers en transportant le dit pétrole, qui, au passage, représente le plus gros volume de marchandises transportées dans le monde. Et quand on voit le nombre de marées noires qui submergent nos côtes, ce ne sera peut-être pas un mal. La fin du pétrole, c'est aussi la fin de l'industrie aéronautique. Cette industrie est extrêmement sensible au prix du pétrole et les avions sont très gourmands en kérosène. Dans un premier temps, elle pourra survivre en augmentant ses tarifs, mais passé un certain niveau, l'inévitable envolée du brut signera sa perte. C'est la fin des voyages low cost à l'autre bout du monde et du tourisme Club Med. La fin de l'automobile de masse. Le pic du pétrole ne manquera pas d'avoir des conséquences sur les transports, à moyen et à long terme. La consommation française de pétrole atteint désormais 2 millions de barils par jour consommés à 53% par le secteur des transports. Ça va bientôt plus être possible. Comme il sera bientôt impossible de faire rouler le milliard de voitures et de camions en circulation sur la planète sans pétrole. Alors, va-t-on se tourner vers des modes de transport alternatifs ? On nous parle dans les médias de voitures électriques, voitures à hydrogène ou encore de voitures propres. Mais comme on vient de le rappeler, les transports fonctionnent à 98% grâce au pétrole. Et ni la pile à combustible, ni les biocarburants ne sont des solutions, comme certains rêveurs l'imaginent, pour remplacer le pétrole dans les transports. C'est juste un joli coup de peinture verte qui arrive à point nommé pour relooker l'industrie automobile, qui se dote au passage d'une aura d'éco-responsabilité. Rouler plus propre, rouler vert. Ah, on n'est pas à un non-sens près, hein. Alors même que des pays comme la Chine ou l'Inde commencent à peine à accéder à la civilisation de la bagnole, en 2009, la Chine est devenue le premier marché automobile mondial, doublant les États-Unis. les pays occidentaux se sont lancés déjà depuis une dizaine d'années dans la ruée vers l'or vert ou les biocarburants. Les biocarburants ne sont pourtant pas une solution sensée, car leur production nécessite une utilisation importante de carburant, justement, pour faire rouler les tracteurs, les moissonneuses, etc., et d'engrais, qui sont produits à base de pétrole. Il faut aussi de grandes surfaces de terres arables. Pour produire l'équivalent des 49 millions de tonnes de pétrole consommées par les seuls transports par an dans le monde, sans compter les autres usages, il faudrait utiliser dans le meilleur des cas, c'est-à-dire l'huile de colza, 56 400 000 hectares, soit plus que la superficie de la France. La production de produits alimentaires, en France comme dans le monde, constitue un bien meilleur usage de l'agriculture que la production de carburant tout de même. Or, partout, les biocarburants menacent la sécurité alimentaire des peuples. D'après Dominique Guillet, dans un article paru le 24 mars 2007 sur le site Cocopelli, les carburants végétaux ne sont pas verts, ils seraient même plutôt rouges, de la couleur du sang. Ils vont accroître l'immense tragédie de la sous-nutrition, de la mort de faim, de la misère sociale, du déplacement des populations, de la déforestation, de l'érosion des sols, de la désertification et de la pénurie en eau. Les grands groupes pétroliers qui se sont alliés aux grands groupes de l'agroalimentaire et aux grands groupes de l'agrochimie, ainsi qu'aux grands groupes semenciers pour lancer cette farce grotesque, tentent de tranquilliser le citoyen en prétendant que les carburants végétaux ne représentent aucune concurrence pour les filières alimentaires. Mais s'il est plus profitable de produire des carburants végétaux que des aliments, gageons que le grand capital s'orientera vers les carburants végétaux. D'ailleurs, la tangente est déjà prise. Ainsi, en Europe, la Confédération des industries agroalimentaires de l'Union européenne, la CIAA, a demandé à la Commission européenne d'autoriser l'importation de nouvelles variétés de colza génétiquement modifiées pour la production de diesel végétal. Autre exemple, la société pétrolière BP s'est associée à la société de la chimie et de la biotechnologie Dupont de Nemours afin de développer une nouvelle génération de carburant végétal. Dupont a racheté en 1999 le numéro 1 de la semence hybride de maïs, la société Pioneer Hybrid. Rappelons que Dupont était au début du XXe siècle le plus grand vendeur d'armement aux États-Unis et qu'elle est actuellement la seconde multinationale de la semence, en plus d'être la quatrième multinationale de l'agrochimie. On imagine déjà l'ampleur du désastre quand un géant pétrolier s'associe à un géant comme Dupont de Nemours. Et c'est tout un système d'alliances et de conglomérats de multinationales qui se met progressivement en place. Et partout dans le monde, la fièvre de l'or vert sévit, telle une pandémie dont les principaux symptômes sont le cynisme, la bêtise et la cupidité chez les dirigeants des pays pauvres, et qui menace encore davantage l'approvisionnement alimentaire des populations des pays producteurs de biocarburants. En Asie, la course au pétrole vert tourne à la catastrophe. Selon les Amis de la Terre, en Indonésie, par exemple, le gouvernement prévoit de détruire 16,5 millions d'hectares de forêts tropicales pour planter des palmiers à huile. En Malaisie, ce sont 6 millions d'hectares. À Sumatra et Bornéo, quelques 4 millions d'hectares de forêts ont été convertis en plantations de palmiers à huile. Même le fameux parc national de Tanjung Puting, au Kalimantan, a été mis en pièces par des planteurs. Des milliers d'habitants de ces régions ont été expulsés de leurs terres et près de 500 Indonésiens ont été torturés lorsqu'ils tentèrent de résister. Toute la région est en train de devenir un immense champ de pétrole végétal. Ce sont les dommages collatéraux de la fièvre de l'or vert. Et comme souvent, c'est la pire des solutions qui est envisagée, gageons que l'or vert a encore de beaux jours devant lui, malgré un bilan énergétique négatif. En effet, à la centrale de Goldfield, dans l'Iowa, on constate que pour produire 1 litre d'éthanol, il faut transformer 2,37 kg de maïs et brûler 500 g de charbon. Ça fait beaucoup de matières premières et d'énergie gâchée, tout ça. De plus, la production d'un litre d'éthanol entraîne l'érosion de 15 à 25 kg de sol. Érosion signifiant disparition pure et simple, éradication. Toujours dans l'Iowa, autour de la centrale de Goldfield, justement, on peut constater que le niveau des champs est 3 mètres en dessous de celui de la porte de l'église du village, tant les sols ont subi une érosion massive. Quant à l'eau, il faut, selon les régions, de 500 à 1500 litres d'eau pour produire 1 kg de maïs. Cela signifie que la production d'un litre d'éthanol à base de maïs requiert l'utilisation de 1200 à 3600 litres d'eau. C'est un peu gourmand. Et il est aujourd'hui admis que ces grandes surfaces cultivées produisent plus de CO2 que dans des conditions d'agriculture normale. Ces émissions annulent le peu de diminution que les agrocarburants pourraient soi-disant générer. Présentés comme la solution miracle, les agrocarburants sont pourtant en train d'accélérer la destruction des écosystèmes en accélérant la déforestation, en répandant encore plus d'intrants et de pesticides dans les sols, dans l'atmosphère et dans l'eau, et en accélérant les processus d'érosion. Pour finir là-dessus, une récente étude parue en octobre 2011, réalisée par l'IFPRI, International Food Policy Research Institute, à la demande de la Commission européenne, vient confirmer les dangers pressentis. Ce document, qui doit servir de base aux propositions législatives de la Commission européenne, constitue une sérieuse mise en garde et remet en cause la politique de développement des agrocarburants. Pour Diane Van Diel du RACF, ce que nous affirmons depuis des années est enfin annoncé sans ambiguïté. L'IFPRI reconnaissant que les agrocarburants ne sont pas le meilleur outil pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports. Pire, elles constituent un facteur aggravant du réchauffement climatique. Pour Jérôme Frignet de Greenpeace, le détournement d'une part croissante de la production d'huile végétale mondiale en direction des agrocarburants entraîne une pression supplémentaire sur les forêts tropicales. Ce sont principalement les huiles de palme et de soja, moteurs de déforestation, qui répondent à l'augmentation de la demande induite. Avec de tels impacts, et sans révision de l'objectif d'incorporation des agrocarburants dans les transports fixé par la directive énergie renouvelable de 2008, les agrocarburants risquent d'être encore plus dommageables pour le climat que les énergies fossiles qu'ils sont censés remplacer. Pourtant, les responsables politiques français, qui sont très doués pour avoir un discernement obsolète de l'avenir, ont mis en place, il y a peu de temps, un observatoire des agrocarburants dans le but de favoriser leur consommation et par la même occasion d'en augmenter la fabrication. Et cela contre l'avis du Conseil de sécurité alimentaire réuni mi-octobre, qui signalait que l'on devait aller vers l'abandon des agrocarburants pour limiter les risques de famine. C'est écrit noir sur blanc. Pas de concurrence alimentaire, qu'il disait. Nous assistons à un accaparement des terres par les multinationales, les fonds de pension, etc. Tout un monde spéculatif qui voit une aubaine de plus pour faire des profits sur des terres appartenant à la communauté et sur lesquelles il serait plus judicieux de favoriser la petite agriculture vivrière de proximité. Mais que valent 36 000 personnes qui meurent de faim tous les jours contre un 4x4 rutilant et écopolluant ? Quant à la voiture électrique, dont la publicité nous vante les bienfaits depuis 2010, elle ne fait que déplacer le problème. Car d'où vient l'électricité ? S'il fallait produire l'électricité nécessaire pour faire rouler toutes les voitures, tous les camions, vélomoteurs et motos du monde, il faudrait pratiquement doubler la production mondiale d'électricité, ce qui est insurmontable. L'électricité nucléaire aussi arrive à sa fin, car les réserves d'uranium s'épuisent, tout comme pour le pétrole. L'électricité thermique finira avec le charbon, le pétrole ou le gaz. L'électricité des éoliennes et les énergies renouvelables sont encore trop anecdotiques pour représenter une solution sérieuse. Quant aux barrages hydroélectriques, la planète en est saturée. Toujours dans l'espoir de faire perdurer le mythe automobile, la voiture à hydrogène se présentait comme la solution miracle. L'hydrogène existe en quantité illimitée et n'émet en théorie que de la vapeur d'eau lors de la combustion. Sauf que pour que le plus simple des éléments chimiques puisse être exploité et stocké, il doit d'abord être séparé de l'oxygène, avec lequel il forme la molécule d'eau H2O. Et pour le séparer, il faut de l'énergie, de l'électricité en l'occurrence, en très grande quantité. Ainsi, il faudrait construire 900 réacteurs de plus de 1000 MW pour satisfaire la demande en hydrogène pour les seuls transports sur une année aux États-Unis. Sans compter que le problème du stockage de l'hydrogène sous pression reste entier. Pour finir là-dessus, Michel Vautelet considère que, à court et moyen terme, avant 2025, il n'y a aucune alternative crédible au pétrole dans le domaine des transports de marchandises. Les agrocarburants sont insuffisants et en concurrence avec la nourriture. Les véhicules électriques sont trop peu performants et trop gourmands en électricité. Et l'hydrogène va demander des efforts de recherche et de développement, ainsi que des efforts financiers et de construction importants qui demanderont plusieurs décennies. Nous devons nous habituer à la disparition progressive des voitures individuelles et des camions pour privilégier les transports ferroviaires et fluviaux. Et on n'est pas rendu. Avec un gouvernement qui fait le choix de financer le tout automobile et de privilégier l'utilisation de la voiture individuelle avec 15 milliards d'euros qui sont dépensés chaque année pour l'usage de la voiture contre 1,5 milliard pour les transports publics. Il faudra diminuer le parc automobile en multipliant les transports en commun pour lesquels on pourrait préconiser la gratuité. Un basculement sur les transports collectifs d'une partie des crédits affectés à l'automobile suffirait amplement à financer à la fois la gratuité ou une tarification attractive, la réhabilitation des équipements existants, comme les anciennes lignes de train locales qui ont été désaffectées, et le développement du réseau. Dans plusieurs villes, la gratuité est une réalité et des exemples de réussite existent. À Châteauroux, 70 000 habitants, elle a été mise en place depuis décembre 2001. Le centre-ville de Seattle, 500 000 habitants, ou plus récemment la communauté de communes du pays d'Aubagne, 12 communes où vivent plus de 100 000 habitants, ont fait le choix de la gratuité. Dans la ville de Châteauroux, la gratuité totale des transports en commun a entraîné une hausse de 100% de la fréquentation et une baisse du trafic routier en conséquence. Le retour à la marche et à l'usage de la bicyclette seront les seules solutions pour les déplacements à faible et moyenne distance. Les transports de marchandises seront limités par nécessité. Pour finir, rappelons que 80% de la population mondiale n'utilise pas de voiture et que l'automobile ne s'est généralisée en Europe que depuis 40 ans. L'automobiliste est déjà un marginal. Une voiture en moins, c'est 24 barils de pétrole économisés par an. C'est 30 000 litres d'eau qui serviront à être bu. C'est 1,8 tonnes de CO2 par an en moins dans l'atmosphère. Et 30 tonnes de matières premières économisées. La fin du pétrole signifiera aussi la fin de l'étalement urbain. D'immenses bouleversements dans nos modes de vie sont à prévoir. Pour exemple, tous les lotissements pavillonnaires situés à la périphérie des villes, non desservis par les transports en commun, qui ont été bâtis après la découverte du pétrole, seront les premiers touchés par la fin du pétrole. Un crash immobilier est à prévoir et une redensification des villes semble inévitable. L'organisation du territoire, l'urbanisme, l'architecture, l'organisation économique et sociale sont à réinventer. Après plus d'un siècle d'exode rural, il faudra faire le chemin inverse. Construire des villes de taille modeste, loin des grandes agglomérations actuelles, autosuffisantes en énergie et en nourriture. Production diversifiée dans les campagnes environnantes, développement d'une production locale d'électricité renouvelable. Et des solutions, il en existe. Comme cet exemple de nouvelles sources d'énergie disponibles en quantité illimitée. Comme à Toulouse, ce projet de trottoir intelligent qui utilise les pas des piétons pour produire l'énergie qui alimente les réverbères. Le passage d'un piéton sur ses dalles peut ainsi produire jusqu'à 50 watts. On peut aussi imaginer un réseau de multiples micro-productions locales d'électricité redistribuées sur le même modèle qu'Internet ou le peer-to-peer, sur un circuit court, où chacun aurait une petite centrale électrique. De l'énergie qui se distribue horizontalement et non pas de manière centralisée, ce qui nous évitera au passage la grande déperdition d'énergie que l'on retrouve sur les lignes TNT très haute tension. Nous nous acheminerons doucement vers la fin de la croissance toute puissante. L'humanité ne peut se passer des énergies fossiles alors que parallèlement elles vont commencer à tarir. Le système actuel ne pourra donc pas perdurer. Et pourquoi ? La réponse est vite trouvée, car notre modèle économique est une aberration. En effet, celui-ci repose entièrement sur la croissance. Et si l'on regarde d'un point de vue mathématique ce que sous-tend un système basé sur une croissance annuelle de par exemple 2%, on se rend compte tout de suite de l'absurdité même de ce système. Car lorsque l'on applique continuellement un pourcentage de croissance à une quantité, la courbe de croissance qui en résulte est exponentielle et tend vers l'infini. Or, nous sommes dans un système économique tendant vers l'infini qui repose sur des énergies qui ne le sont pas. Forcément, ça coince à un moment. À présent que les indicateurs passent au rouge et commencent à décroître, les médias nous parlent d'une crise économique majeure. Cette fois-ci, ils ont raison. Le mot « crise » est tout à fait approprié lorsque notre modèle économique nous démontre son inadéquation. Ainsi, dès que la croissance économique est absente, ce sont les licenciements, les saisies immobilières ou les drames sociaux qui sont en croissance. Et c'est ce cocktail explosif qui constitue le phénomène de la croissance négative. À ne pas confondre avec la décroissance, qui elle se veut volontaire et planifiée par l'homme. Un véritable changement de paradigme. Mais ce changement sera loin d'être une chose aisée. Il faudra tout d'abord se convaincre d'être plus heureux avec moins. Et après quoi, il faudra intégralement repenser notre organisation sociale. Relocalisation du travail, de la production alimentaire, du commerce et bien entendu de la consommation. Il faudra passer du capital financier au capital humain. Bref, une véritable révolution. Ce qui se présentera aussi, c'est une crise alimentaire majeure. Manger ou conduire, il faut choisir. Lorsque le pétrole va se raréfier, c'est-à-dire très bientôt, les rendements de l'agriculture vont diminuer, car les engrais deviendront rares ou très chers. La France va devoir nourrir 60 millions de personnes sans engrais autres que naturels. Elle en consomme actuellement sur son tout petit territoire autant que les États-Unis. Selon l'association Eating Fossil Fuels, la population actuelle ne pourra pas être nourrie en entier et des millions de personnes risquent de mourir de faim. Si l'on veut s'adapter à long terme à une agriculture ne dépendant pas des produits pétroliers, il faut sortir du modèle des monocultures intensives, motorisées et polluantes pour retrouver une agriculture paysanne ayant de faibles besoins énergétiques. Chaque parcelle de terre cultivable devra être réservée à la production alimentaire. Tout l'inverse des biocarburants, quoi. Et il faudra nécessairement réduire la proportion de viande dans l'alimentation quotidienne, car la production d'un gramme de protéines animales nécessite 5 à 10 fois plus de ressources agricoles que celle d'un gramme de protéines végétales. Et oui, si l'on veut nourrir une population exponentielle, à un moment, il faut faire des choix. Se profile également un crash du dollar. C'est un point presque anecdotique par rapport à la situation qui affectera toute la planète, même si cet événement pourrait bien être le premier à se manifester, voire le déclencheur. Pour résumer, les États-Unis ont réussi depuis la dernière guerre mondiale à imposer le dollar comme monnaie d'échange pour le pétrole, les fameux pétrodollars. En conséquence, tous les pays souhaitant en importer doivent emprunter des dollars, soutenant ainsi de façon artificielle cette devise. Dans la pratique, cela signifie que les États-Unis peuvent ainsi se permettre un déficit commercial considérable, sans conséquences immédiates. En contrepartie, si ce système s'arrête, ils seront les tout premiers à en souffrir. Néanmoins, ce crash ne viendra pas aussitôt le pic de Uber dépassé, car dans un premier temps, la hausse du prix du pétrole compensera en dollars la baisse du volume et du pétrole extrait, pour une valeur globale en hausse. C'est exactement ce que l'on est en train de vivre. Le pétrole étant le plus gros commerce international de matière de la planète en valeur et en volume, on peut imaginer un crash boursier global. Et avec lui, ce qui ne tardera pas à arriver ensuite, un taux de chômage explosif, des émeutes, etc. Il nous faut renoncer à l'imaginaire économique, à cette croyance que plus égale mieux, à ce règne de la quantité où la croissance est pensée comme naturelle, indispensable et infinie. Il est grand temps de passer au règne suivant, celui de la qualité. Centimes d'euros, c'est le prix de départ pour l'achat d'une plateforme pétrolière. Plateforme en bon état à vendre, 20 chambres, vue panoramique sur la mer, espace généreux pour accès en hélicoptère. La plateforme pétrolière Uldra, en plein cœur de la mer du Nord, cherche preneur. Son prix de départ est de 13 centimes d'euros. Selon le site Le Monde, qui relaie un simple communiqué de presse, la plateforme est mise en vente par la société pétrolière norvégienne State Oil, car elle est rendue superflue par l'épuisement du gisement qu'elle exploite. Quelque chose me dit qu'un grand nombre de plateformes pétrolières risquent d'être à vendre dans les prochaines années. Serait-ce une opportunité pour développer de nouvelles formes d'habitat en symbiose avec la nature ? Les embruns, c'est vivifiant. Les sources de cette émission. Le site carfree.fr regorge d'informations et de ressources contre la voiture, sur la fin du pétrole, etc. et pour les alternatives. Vous pouvez aussi vous tourner vers le numéro d'octobre 2011 de L'Âge de Fer intitulé « Quelle vie après le pétrole ?». Le compte-rendu de la 4e édition de l'Altervillage d'Attaque qui a abordé cette année la question de la transition vers une société sans pétrole et qui propose des arguments pour développer le ferroviaire et pour la gratuité. Bibliographie Citotech, la course aux énergies, ce qu'on vous dit, ce qu'on vous cache. C'est un essai de Jean-Marc Sérécian qui prend comme fil conducteur l'énergie et sa gestion politique à travers l'histoire pour démontrer que la course à l'énergie que vivent les sociétés contemporaines est comparable à la course aux armements et se trouve même dans sa continuité. Il analyse parallèlement le système capitaliste comme une vaste entreprise de destruction massive et plaide pour la décroissance énergétique. Vous pouvez trouver ce livre, donc La course aux énergies, ce qu'on vous dit et ce qu'on vous cache, de Jean-Marc Sérécian aux éditions Libertaire. Un site pour se préparer au choc pétrolier, www.oleocene.org. Également, www.terredebrut.org, le site carfree.fr et aspofrance.org. Concernant les agrocarburants, je vous conseille vivement l'article de Dominique Guillet paru sur le site de Cocopelli, l'or vert ou les nécrocarburants, mettez du sang dans votre moteur. Enfin, l'article L'impossible voiture propre de Vincent Chenec sur le site www.decroissance.org et puis tout un tas d'infos également sur le site www.rac-f.org pour avoir l'étude de l'IFPRI en détail. Pour ceux qui ont envie de pédaler, mais pas dans la semoule, vous pouvez prendre contact avec la Vélorution à Toulouse. Leurs locaux sont situés au 6 rue Bénézet à Saint-Cyprien. Ouverture publique le mardi de 17h à 20h. Et puis sur le marché Saint-Aubin s'il ne pleut pas de 11h à 14h. vous pouvez vous acheter une bicyclette d'occasion, remontée sur mesure, du mardi au vendredi de 14h à 20h. Et puis les ateliers vélo du zinc, au pôle asso à la fac de Rangueil, les mardis, jeudis et samedis de 15h à 19h. Également le recyclage, le mercredi de 17 à 19h au pavillon sauvage rue Jean Dagneau et le samedi de 11h à 13h au marché Arnaud Bernard. La Vélorution, ça s'écrit comme ça se prononce, il suffit de taper sur internet pour avoir tous les contacts et les horaires. Cette émission a été enregistrée sur un support en plastique, puis montée sur un ordinateur fabriqué à 90% avec du pétrole, que vous écoutez sans doute sur un poste radio en plastique. Soyons médias actifs. Radio Girafe, un studio de radio mobile et des ateliers multimédia proposés par l'association d'éducation populaire Gudule et Galipette.